Amis auditeurs, bonjour. Nous nous retrouvons donc pour notre émission Croire aujourd'hui sur Fréquence Protestante avec au micro Thomas Constantini en compagnie de Vincent Bru, pasteur de l'Église réformée évangélique de Paris 13e, qui répondra aujourd'hui à la question « Qu'est-ce que Jésus a d'original ?» Une question importante, sans doute même déterminante pour notre foi, parce que parler de l'originalité de Jésus, c'est une manière de dire ce qui constitue sa singularité, le fait qu'il soit unique et qu'aucune contrefaçon n'est possible. La façon dont Jésus nous parle de Jésus, du Christ, ne nous laisse aucune confusion dans notre esprit. Aucun homme ne peut se prévaloir de la même singularité que Jésus, qui apparaît donc comme un cas tout à fait unique dans toute l'histoire de l'humanité. Mais arrivons au vif du sujet. Vincent, en quoi consiste cette originalité, cette singularité de Jésus?
Alors Thomas, il me semble, tout d'abord, pour répondre à ta question, qu'il faudrait tout d'abord relever deux fausses pistes à ne pas suivre, à éviter, sur cette question de l'originalité de Jésus. Et en effet, la première, c'est qu'aujourd'hui, Jésus est souvent banalisé. On a entendu parler de lui, on a quelques vagues idées à son sujet, et beaucoup de nos contemporains pensent le connaître. Et le résultat, c'est qu'on est vacciné contre son message et son originalité. Et on passe, en quelque sorte, à côté de cette originalité dont nous parlons. On croit le connaître, mais ce ne sont en réalité bien souvent que des préjugés, des visions déformées qui ne rendent pas du tout justice en réalité à la façon dont la Bible nous parle du Christ, de sa personne et de son message. Et la deuxième piste à éviter, me semble-t-il, c'est celle qui consiste à grossir, alors à exagérer l'originalité de Jésus et à ne pas voir la continuité qui existe aussi bel et bien entre son enseignement et la religion juive, la religion d'Israël. En un sens, Jésus n'a rien inventé, mais il a, nous y reviendrons sans doute tout à l'heure, mené à la perfection, à son plein achèvement, la religion d'Israël, telle qu'elle est exprimée dans l'Ancien Testament. Donc, ne pas sous-estimer l'originalité de Jésus et ne pas non plus la surestimer. C'est là ce que j'ai envie de dire d'abord sur ce sujet de l'originalité de Jésus.
Oui, alors d'accord, mais enfin, au-delà de ce nécessaire équilibre à garder, est-ce qu'il n'est quand même pas vrai que l'originalité de Jésus saute aux yeux à celui qui lit la Bible, le Nouveau Testament, lorsqu'on considère son identité même, sa nature qui est véritablement unique et dont témoignent ne serait-ce que les récits de sa naissance et de sa mort?
Alors, incontestablement, Thomas, tu fais bien de le dire, et je pense que c'est d'ailleurs là la première chose qu'il faut dire au sujet de l'originalité de Jésus. C'est d'ailleurs ce qui relève de ce que les théologiens appellent la christologie, c'est-à-dire la doctrine du Christ, hein, ce que la Bible enseigne concernant la personne et l'identité même de Jésus-Christ, et plus particulièrement la question de ce que les grands symboles de la foi chrétienne, je pense en particulier au symbole de Nicée-Constantinople, mais aussi à celui d'Athanase ou de Chalcédoine, la question de la double nature de Jésus-Christ, qui nous est présentée dans la Bible comme étant vraiment homme, certes, mais aussi, et c'est précisément en cela qu'il est unique, vraiment Dieu. Jésus-Christ nous est présenté dans la Bible et aussi dans ces grands symboles de la foi une et indivisible de l'Église comme étant vraiment Dieu tout en étant vraiment homme tout en étant vraiment Dieu.
Et là, c'est un cas unique, bien sûr, déjà, et c'est ce qui fonde l'originalité de Jésus.
Incontestablement, il me semble que c'est ce qu'il faut dire en tout premier lieu. C'est en effet, en particulier d'ailleurs, le récit de la naissance miraculeuse de Jésus, conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, comme l'affirme le symbole des apôtres, comme aussi celui de sa résurrection qui atteste cette singularité de Jésus. Et d'ailleurs, tu remarqueras que dans le mot « originalité », il y a le mot « origine ». Et l'originalité de Jésus tient aussi incontestablement à son origine unique, c'est-à-dire son origine divine. Jésus est original du fait de son origine unique, née de la Vierge Marie. Et effectivement, comme tu l'as souligné, aucun homme n'a jamais, ne serait-ce que prétendu, être Dieu de la même façon que Jésus l'a fait. Aucun non plus ne peut prétendre avoir la même origine que Jésus, le Fils incarné de Dieu. Pas plus que la même fin, puisque Jésus, c'est là le message de l'Évangile et le témoignage des apôtres, est ressuscité des morts. Il est vivant éternellement. Tandis que tous ceux qui sont venus avant lui ou après lui sont bel et bien morts et enterrés. Tous les fondateurs de religion sont morts, et aucun n'a jamais prétendu être vivant aujourd'hui encore et être revenu à la vie. Jésus est donc bien un cas unique pour ceux qui reçoivent le témoignage de l'Écriture comme étant véridique concernant la véritable nature de Jésus-Christ, pleinement homme et pleinement Dieu.
D'accord, mais maintenant si l'on considère non plus la personne de Jésus avec sa nature, son identité divine, mais son ministère et son message, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de l'originalité? Je pense notamment au fait que très clairement Jésus a accompli les prophéties messianiques de l'Ancien Testament.
Oui.
Il n'a pas inventé une nouvelle religion. C'est plutôt, pour moi, l'accomplissement de promesses qui avaient été faites au Père, au peuple hébreu. Notamment l'accomplissement de la promesse à Abraham, au-delà du don d'une terre et d'une grande descendance, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est en Genèse 12.
Oui, alors en effet, il me semble important de dire cela, d'autant qu'on le méconnaît parfois aujourd'hui. C'est important de dire aussi peut-être vis-à-vis des Juifs aujourd'hui qui peuvent penser que le christianisme est en quelque sorte une nouvelle religion, une secte issue du judaïsme en quelque sorte, tandis que nous disons, nous, que le christianisme n'est rien de moins que ce que l'on pourrait appeler le judaïsme accompli, pleinement accompli, le judaïsme de la nouvelle alliance. Et tu as bien fait de mentionner cette triple promesse à Abraham, le père des croyants, comme aussi le père de la nation juive, avec notamment cette troisième promesse qui concerne, par-delà le don de la terre et d'une descendance, d'une grande descendance, il est question de la bénédiction universelle qui effectivement ne trouve son plein accomplissement qu'en Jésus. Et il est un fait que les Juifs restent encore en quelque sorte attachés aux deux premières promesses, celle de la terre et de la nation d'Israël, tandis que Jésus, et c'est précisément ce qui fait son originalité, me semble-t-il, sa nouveauté, eh bien, il a mené à la perfection cette alliance de Dieu conclue avec Abraham, en réalisant notamment la promesse la plus importante dont dépend notre salut, à savoir la bénédiction de toutes les familles de la terre. Et c'est d'ailleurs là ce que dit l'apôtre Paul en Éphésiens 2, n'est-ce pas, la venue de Jésus a fait tomber le mur de séparation entre juifs et païens, et tous sont sur un même pied d'égalité vis-à-vis du salut de Dieu et de son alliance. L'originalité de Jésus est donc précisément là, dans cet accomplissement de l'alliance, qui va bien au-delà des simples limites d'Israël.
On peut, pour rester sur l'originalité du ministère de Jésus, est-ce qu'on ne peut pas dire aussi qu'en contraste avec les personnages bibliques de l'Ancien Testament, il est à la fois, il a cumulé ces trois offices ou fonctions de prophète, prêtre et roi. C'est un point sur lequel notamment le catéchisme de Westminster, qui est un des documents les plus célèbres de la Réformation, insiste beaucoup, consacre trois chapitres au fait que Jésus a cumulé, et c'est de nouveau un fait unique, ces trois fonctions.
Alors en effet, je pense que cela fait partie de la singularité même de la personne de Jésus, d'avoir cumulé ces trois offices ou fonctions que tu as mentionnées, celles de prophète, prêtre et roi, d'autant que on voit très bien dans l'Ancien Testament que la loi de Dieu interdisait en quelque sorte au roi d'assumer par exemple la fonction de prophète. Le prophète était à côté du roi, en face de lui, pour l'avertir notamment, comme ce fut le cas avec le prophète Nathan qui se tenait en face du roi David, pour l'avertir, pour le reprendre, pour lui parler de la part de Dieu, et de même avec la prêtrise qui était réservée aux membres de la tribu de Lévi, et ce, uniquement. Tandis que Jésus nous est effectivement présenté dans la Bible comme étant à la fois le souverain prophète, puisqu'il nous révèle Dieu dans sa plénitude, le souverain prêtre. Il a donné sa vie en sacrifice unique et parfait, et pleinement suffisant pour les péchés, et le souverain roi, puisqu'il règne véritablement sur toute chose depuis sa résurrection. Donc il est tout à la fois, de même qu'il était, nous l'avons dit tout à l'heure, vraiment Dieu et vraiment homme, eh bien c'est un cas unique. Jésus a cumulé parfaitement ces trois offices qu'il a aussi menés à la perfection. Mmh. Il est le vrai prophète, il est le vrai prêtre et le vrai roi. Et tous ceux qui sont venus avant lui, en réalité, ne font ce sont que des ombres et des types, effectivement, de ce que lui a été.
Voilà.
Et là, ce qu'il est encore éternellement.
Il est encore aujourd'hui, mais là, on revient sur cette notion d'accomplissement de l'Ancien Testament dont tu as parlé précédemment, y compris donc dans ses fonctions de prophète, prêtre et roi.
Oui.
J'aimerais qu'on parle aussi un petit peu des miracles de Jésus, qu'il ait fait assez fréquemment mention tout de même dans le Nouveau Testament. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut considérer que ces miracles font partie aussi de la singularité de Jésus?
Alors j'ai envie de répondre oui et non, même si cette réponse paraîtra peut-être insatisfaisante à certains, puisque en effet Jésus a fait beaucoup de miracles, et on peut penser que c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait original. Mais
historique,
tant qu'à faire. Historique, c'est historique. En tout cas, les témoignages des évangiles se présentent comme tels, comme étant des récits fiables, historiques. Mais incontestablement, Jésus n'a pas été le seul à avoir fait des miracles. On trouve notamment dans l'Ancien Testament, du temps de Moïse en particulier, de tels miracles. Les prophètes ont fait des miracles, et puis il y a des miracles dans d'autres religions. Jésus lui-même a dit qu'avant son retour, beaucoup de faux Christ et de faux prophètes viendront et séduiront beaucoup de gens par leurs miracles.
Donc ce n'est pas un critère en tant que tel, le miracle.
On ne peut pas dire ça, en tout cas sur la base du témoignage des Écritures, de la Bible, puisque le miracle lui-même n'est pas nécessairement vrai, il n'est pas présenté comme venant forcément de Dieu. Hein, le diable, notamment, peut faire des miracles. Mais quand même, on peut dire que ce qui fait la spécificité réelle chez la personne de Jésus concernant ces miracles, c'est que ces miracles sont toujours dans les évangiles une illustration de son enseignement, en quelque sorte. Hein. Ce sont des signes, d'ailleurs en grec c'est le terme séméion qui est utilisé, et non pas des prodiges pour frapper les regards. Les miracles pointent vers une réalité spirituelle qu'ils entendent simplement illustrer ou manifester. Et leur utilité à ce titre est plus pour ceux qui croient que pour ceux qui ne croient pas. Et donc dans ce sens, je pense effectivement qu'on peut dire que les miracles de Jésus montrent en effet, à leur façon, son originalité, même si cette originalité ne réside pas d'abord dans le miracle.
C'est plutôt l'usage qu'il a fait du miracle, la portée, j'allais dire, pédagogique presque.
Pédagogique et théologique, spirituelle du miracle.
Qui compte, et non pas l'acte de puissance en tant que tel.
Tout à fait. Hein. Il y a une singularité, une originalité du miracle de Jésus, au même titre qu'il y a une originalité quant à son message et quant à sa personne.
Et qu'est-ce qu'on peut dire maintenant au sujet de l'originalité de Jésus par rapport au milieu juif de son temps, par rapport aux nombreuses factions, mouvements divers de l'époque? Je pense aux Esséniens, aux Pharisiens, aux Zélotes. Est-ce que le message de Jésus était à ce point original qu'il se distinguait de façon radicale de ces milieux, mm-hmm. ou est-ce que au contraire on peut trouver des points de convergence?
Eh bien, il me semble qu'en un sens, oui, et en un sens, non.
De nouveau.
De nouveau. Oui, parce que le message de Jésus était effectivement différent, bien des égards, mais en un sens, non, dans la mesure où si l'on considère l'ensemble du message de Jésus, et si on compare celui-ci avec ce que nous savons aujourd'hui des croyances de l'époque, avec notamment les manuscrits de la Mer Morte, hein, découverts à Qumran, concernant aussi la secte des Esséniens, on peut dire que quasiment rien de ce que Jésus a dit n'avait pas déjà été dit par d'autres avant lui, ou même à son époque, en un certain sens. On retrouve tel enseignement de Jésus, telle ou telle de ses affirmations, de ses paroles, dans l'un ou l'autre document, alors issu soit de la communauté des pharisiens, ou des Esséniens, de tel ou tel rabbin ou maître à penser, qui disent à peu près, à peu de choses près la même chose, mais plus encore dans l'Ancien Testament, dont d'ailleurs Jésus était tout à fait imprégné et qu'il connaissait mieux que quiconque.
À la limite, on peut même dire que le message central de l'Évangile, le juste vivra par la foi, il se trouve dans l'Ancien Testament. Hein, mais,
oui, tout à fait.
Mais il y a quand même une... Mais dans ce cas-là, si on demeure sur cette base, est-ce tu n'es pas en train de dire partager un accord avec ce que certains prétendent aujourd'hui, mm-hmm. et même depuis le 19e siècle? Et on l'a entendu dire encore il n'y a pas si longtemps sur le câble par messieurs Mordillat et Prieur, donc qui avaient réalisé l'inénarrable Corpus Christi, donc la thèse selon laquelle Jésus n'aurait en fait rien d'original, mm-hmm. et qu'il n'aurait été finalement qu'un juif parmi les juifs, totalement inséré dans le milieu juif du judaïsme palestinien du 1er siècle, et donc il n'aurait eu aucune singularité.
Alors, c'est certainement pas là où je veux en venir. Ce n'est pas ce que je dis, mais simplement, il me semble que l'originalité du message de Jésus ne tient pas précisément au fait qu'il serait radicalement différent du discours que d'autres que lui tenaient à l'époque, ou bien par rapport à l'Ancien Testament. En fait, son originalité, elle se trouve ailleurs. Le fait de retrouver des enseignements de Jésus, par exemple, dans la bouche d'autres personnes ne signifie pas pour autant que la personne de Jésus soit, de ce simple fait, dépourvue de toute singularité. En fait, on peut dire que la singularité de Jésus tient à deux choses, à deux faits. Et le premier, c'est que bien que Jésus a fait et dit bien des choses que d'autres avaient faites et disaient, il parlait et agissait d'une manière telle, une manière très spéciale. Il parlait, nous dit la parole de Dieu, de sa propre autorité sans se recommander d'une école de pensée. Hein, sa parole était considérée par lui-même, mais les foules le savaient bien aussi, comme la parole même de Dieu. Par exemple, en Matthieu 7, 28, il est dit, c'est la fin du sermon sur la montagne, « Quand Jésus eut achevé ses discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité et non pas comme leurs scribes. » Ça, c'est donc le premier point. Jésus enseigne avec autorité, et une autorité sans précédent. Et la deuxième chose qu'il faut dire, me semble-t-il, c'est que là où il y a incontestablement singularité et originalité dans le message de Jésus, c'est que toutes ces vérités, toutes ces paroles que l'on retrouve ça et là, éparpillées dans les différentes communautés juives de l'époque, dans l'Ancien Testament, chez les pharisiens, les sadducéens, les esséniens, toutes ces vérités se trouvent rassemblés dans le discours de Jésus, et ce de façon absolument harmonieuse, sans la moindre tâche, sans la moindre contradiction ou incohérence. Alors, pour donner qu'un exemple, Jésus enseignait la résurrection des morts, et les pharisiens aussi le faisaient, ils n'étaient pas original en enseignant la résurrection. Les sadducéens, eux, n'y croyaient pas, et étaient sur ce point en désaccord avec les pharisiens, et donc aussi avec Jésus. Les sadducéens, en cela, avaient tort, leur compréhension de la Bible, sur ce point, n'était pas juste. Mais les pharisiens n'étaient pas parfaits pour autant, ils avaient en effet la fâcheuse tendance à l'auto-justification et prônaient une religion des œuvres où il s'agissait de gagner en quelque sorte son salut. Qui plus est, Jésus les a accusés d'hypocrisie et de ne pas retenir l'essentiel dans la loi de Dieu, qu'ils entendaient bien pourtant suivre très scrupuleusement. Il leur dit par exemple en Matthieu 23, « Conducteurs aveugles qui retenaient au filtre le moucheron et qui avalaient le chameau. Mmh. »
Mais est-ce que par rapport à ses relations avec les milieux juifs de son époque, est-ce qu'on n'a pas tout de même un peu exagéré, notamment dans certains milieux chrétiens où l'on tend à déprécier le rôle de la loi, l'opposition de Jésus avec les pharisiens?
Alors il me semble effectivement qu'on a parfois tendance à exagérer cette opposition, parfois à la sous-estimer aussi. Peut-être que la tendance actuelle est plutôt de l'exagérer dans certains milieux, alors qu'en fait, effectivement, en un certain sens, on peut tout aussi bien dire que Jésus s'est présenté en quelque sorte comme un novateur parmi les partisans du renouveau juif à son époque, et en particulier les pharisiens, puisque les pharisiens se réclamait aussi de ce renouveau juif, d'un retour, d'une intégrité par rapport à l'enseignement de l'Ancien Testament, de la loi de Dieu, et on voit dans les évangiles que Jésus n'était pas effectivement systématiquement contre eux. Eux-mêmes ne s'opposaient pas non plus toujours à lui, comme on voit en Luc 13 par exemple, où des pharisiens veulent protéger Jésus, ou en Jean 3, l'entretien de Jésus avec Nicodème.
Oui, oui. Le fait même qu'il y ait eu tellement d'interactions entre Jésus et les pharisiens, même si c'était fréquemment en opposition, montre bien que d'une certaine façon, Jésus et eux se retrouvaient sur le même terrain, même si l'espérance des pharisiens était voilée et si leurs enseignements souffraient d'assez nombreuses déviances. C'était quoi la différence principalement entre les pharisiens et Jésus ?
Vis-à-vis des pharisiens, incontestablement, ce qui fait la spécificité du message de Jésus par rapport au leur, c'est la question notamment de l'universalité du salut, puisque dans l'enseignement de Jésus, le salut ne s'obtient que par la foi en lui, indépendamment de la simple obéissance à la loi juive, et qui plus est, on voit bien avec notamment l'épisode de la Samaritaine, du centurion romain, que l'annonce du salut concerne dorénavant non plus seulement la seule nation juive, mais toute l'humanité, tous les hommes, quels qu'ils soient. Et puis aussi on peut noter sa référence exclusive à la parole de Dieu, à l'Ancien Testament, tandis que les pharisiens se référaient aussi à la tradition des anciens qui occultait parfois la pureté du message évangélique, du message biblique, même de l'Ancien Testament. Et Jésus leur a amèrement reproché justement d'avoir ajouté à la parole de Dieu.
Et en ce qui concerne le groupe encore plus marginal certainement des Esséniens, on a dit que Jésus, en tout cas Jean-Baptiste, son cousin, avait été probablement très influencé par eux. Est-ce que c'est vrai ?
Alors, il me semble que sur la base de nos connaissances actuelles, nous n'en savons rien, en réalité, puisque ni Jean-Baptiste, il est un fait que dans le texte lui-même, le texte biblique, on voit que ni Jean-Baptiste, ni Jésus ne mentionnent ce mouvement des Esséniens, hein, cette secte juive, qui se tenait d'ailleurs à l'écart. Il n'est pas impossible qu'ils aient été un temps en contact avec, qu'ils en connaissaient l'existence, mais je ne pense pas que l'on puisse en déduire qu'ils ont subi de cette faction au sein même du judaïsme.
Qui n'était jamais qu'une faction d'ailleurs au milieu de plusieurs dizaines d'autres.
Oui, oui, oui. Alors on peut noter effectivement des regroupements entre le message de Jésus et celui des Esséniens, concernant notamment la question de la fin des temps, la manifestation imminente du royaume, mais il existe aussi de sérieuses divergences qui font qu'il y a une spécificité bien réelle du message de Jésus. Hein. On voit bien d'ailleurs que ce qu'on a dit tout à l'heure vis-à-vis des pharisiens, on pourrait tout aussi bien le dire vis-à-vis des Esséniens et de n'importe quel autre mouvement du judaïsme de son époque, c'est-à-dire que Jésus, la synthèse opérée par Jésus, a quelque chose d'unique et transcende tous ces mouvements, même si on peut opérer certains regroupements, même si ce que Jésus a dit n'était pas nécessairement tout à fait nouveau. Il y a dans sa façon de le dire, il y a dans cette synthèse qu'il a opérée dans son enseignement, quelque chose d'absolument unique, qui d'ailleurs a fait dire à l'apôtre Pierre, dans sa belle confession de foi, c'est Jean 6, verset 68, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous ? » Autrement dit, tu es le seul.
Le seul.
Ce que tu dis nous ne l'avons entendu chez nul autre.
Oui, au milieu de la multiplicité de maîtres qui pouvaient exister dans le judaïsme de l'époque.
Oui.
On s'approche de la fin de l'émission. Est-ce qu'il y a d'autres aspects de la singularité de Jésus que tu voudrais souligner ?
Ben écoute, il me semble qu'il y aurait sans doute encore beaucoup à dire. Ce n'est qu'un survol. En 20 minutes, on peut difficilement tout dire. Cela dit, il me semble que par rapport notamment au culte à mystère, qui était courant à l'époque de Jésus et plus encore des apôtres plus tard, le message de Jésus n'était pas réservé à des initiés, à une élite. Hein, il était pour tous et c'est ce qu'il a dit à ses disciples au jardin de Gethsémané, tandis que les gardes viennent l'arrêter. Je n'ai rien dit en secret. Son message est public et il concerne tout homme. Et on peut dire d'ailleurs, pour résumer, que Jésus transcendait vraiment toutes les tendances du judaïsme de son temps. Il n'a pas pris parti pour l'un ou l'autre de ses mouvements, de ses factions. Il ne s'est pas réclamé de telle ou telle école. Son message ne fait exception de personne.
On le voit avec d'ailleurs ses disciples, Matthieu qui était un publicain, Judas un zélote. Il avait des pharisiens qui le suivaient, comme Nicodème. L'annonce du salut à un centurion romain, à la Samaritaine. Il transcendait vraiment toutes ces tendances du judaïsme. Il a dépassé tous les clivages de son temps pour appeler tout le monde à la conversion et à la foi en lui.
Merci Vincent de ces exposés. Nous nous retrouverons bientôt sur l'antenne de Fréquence Protestante.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Et à la prochaine fois.